Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Avant de parler des véhicules de la semaine, Germain, un mot pour mentionner qu'au guide de l'auto cette semaine, on met à l'essai la C300, Mercedes C300 de nouvelle génération, 4-matique évidemment. Pas AMG.
Oh wow, ça c'est exceptionnel!
Et pas noir ni blanche.
Oh mon Dieu,
ouais,
une rareté!
Oui, c'est ça. Alors vous allez voir ça, TVA 11h30, samedi matin. Évidemment, en reprise, vous allez pouvoir le voir sur TVA+, au 900 si vous êtes Club Illico. Sinon, sur ma page YouTube, Auto Joubert, sur ma page Facebook, sur le site du Guide de l'Auto, en segment. Bref,
il n'y a pas de... si vous l'avez raté, il n'y a pas de raison de la rater une deuxième fois.
T'as tout compris. Bon, Germain, t'as conduit récemment une Ioniq 5 propulsé à petite batterie.
Oui, exactement.
Alors, une voiture plus accessible, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Ioniq 5 à 4 roues motrices, 300 quelques chevaux, bon, etc., mais une Ioniq 5 dont le prix se rapproche des voitures électriques d'entrée de gamme, là, les Bolt, les Soul, les Kona, etc.
Oui, effectivement. Donc, quand la Ioniq 5 est arrivée sur le marché l'année dernière, bon, on était tous bien emballés par, effectivement, des versions à autonomie prolongée avec les deux moteurs, donc les quatre roues motrices. Mais il y a une gamme plus diversifié que ça, il faut le savoir. Et je trouvais intéressant de mettre en plein mois de janvier une version propulsée de la Ioniq 5 pour voir comment cette voiture-là allait se débrouiller dans la neige. Donc, c'est une version Preferred à roue motrice arrière. Donc, une voiture de 46 999 $ plus les frais de transport et préparation.
C'est-à-dire
donc,
la deuxième de la gamme, parce qu'il y a un modèle de base sous les 45 000 $
Même pour 2023?
Je pense que pour 2023, on l'a abandonné, ouais. Effectivement. Mais c'était une version sans thermorégulation.
Oui, qui était à oublier.
Et
là.
Finalement, on ne la prenait pas. Donc, non. On peut considérer cette version-là comme le vrai modèle de base.
Oui, effectivement. Et on nous annonce une autonomie de 354 km dans les conditions les plus idéales. Dans mon cas, en plein mois de janvier, avec le mercure autour de moins 5, là, plus ou moins.
Et le mercure stationné juste en avant?
Non, le mercure est stationné pour l'hiver.
Ah, OK.
Et non, l'autonomie était beaucoup plus basse. Là, on était, je dirais, là, faire 225 là, avec une recharge complète, là, c'était...
Quand même! Oui, puis on perdait un bon 35 %. Là.
Oui, et dans mon cas, j'accepte pas de rouler dans un réfrigérateur ambulant. Là, pardon, je mets un peu de chauffage, puis tu sais, on a des commodités comme le volant chauffant puis les sièges chauffants. Alors, on les active, c'est normal. Ce qui fait qu'au terme de 700 km d'essai, j'avais une consommation de 24,3 kWh pour 100 km. Ce qui demeure assez élevé, beaucoup plus que ce qu'on voit en période estivale où on n'utilise pas justement la chaleur notamment. Mais oui, j'ai trouvé l'autonomie en hiver peut-être un petit peu décevante.
Contraignante pour certains, mais plus que suffisante pour d'autres quand même.
Oui, c'est ça. Mais pour quelqu'un qui a des plus longs trajets à faire, ça peut devenir une contrainte. Si on ne peut pas se rendre à Québec avec une seule charge en hiver, si on a à faire ce type de trajet-là régulièrement, il faut savoir qu'elle n'est pas capable de le faire en plein mois de janvier, donc ça peut devenir désagréable ou contraignant, mais autrement, ça demeure une voiture extrêmement spacieuse et ça m'a...
Et c'est une propulsion, alors comment ça se comporte l'hiver?
Ah, ben excellente question. Pour vrai, si on le sait pas, c'est difficile d'imaginer qu'on a une propulsion.
Donc, comme une Model 3... Oui. Tout le poids est au sol.
Tout le poids
et
est
on
au
a une
sol.
Bonne traction.
On a une excellente traction. Oui, l'antipatinage embarque, mais comme il embarque avec une voiture ordinaire à traction, donc j'ai même été surpris et étonné de voir à quel point elle était efficace en hiver.
Okay.
Donc, on n'a pas absolument besoin des deux moteurs et donc des quatre roues motrices. C'était pour moi une belle surprise de remarquer sa stabilité, même en étant une voiture propulsée. Un mot sur l'espace à bord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace, autant à l'avant pour... pour les deux occupants qu'à l'arrière. Le dégagement pour les jambes, pour la tête, il y en a autant que t'en veux. Le coffre est grand aussi. Ça en fait un véhicule pratique pour une famille, par exemple. De ton côté, Antoine, tu as conduit un autre véhicule très pratique pour les familles, la Toyota Sienna, en version 4 roues motrices.
Oui, en version 4 roues motrices. Une version XSE qui se veut sportive.
Oh, pelaille!
C'était très drôle. On a ajouté des jupes aérodynamiques là-dessus. Je suis pas certain que c'est ce qui va se vendre le plus, mais c'est surtout la technologie qui m'intéressait. Et de réapprivoiser cette fourgonnette-là que je n'avais pas conduit depuis son lancement. Écoute, il n'y a pas plus spacieux dans le segment. C'est beaucoup plus spacieux qu'une fourgonnette Chrysler Pacifica. Plus d'espace que dans l'Odyssée. Il y a même un peu plus d'espace que dans une Kia Carnival dont je suis propriétaire. Donc, c'est une fourgonnette que je connais bien.
C'est l'aménagement à bord qui est intéressant.
Ben voilà. Alors, de la façon que c'est fait, c'est que non seulement tu ouvres le hayon arrière, et tu découvres un espace très vaste, très large, mais les parois intérieures du véhicule ont été dessinées de sorte que tu puisses ranger un paquet d'objets. Tout a été super bien pensé. Tu rabats les banquettes dans le plancher à l'arrière. Les sièges baquets de la deuxième rangée, donc l'assise se replie à la verticale et ensuite tu peux pousser les sièges au maximum vers les sièges avant pour aller chercher un maximum d'espace intérieur. C'est très, très, très bien fait. Je te dirais ceci, par contre. Lorsque tu conduis le véhicule, c'est pas aussi insonorisé qu'une Chrysler, c'est pas aussi insonorisé qu'une Kia. Il y a encore une lacune à ce niveau-là. C'est un moteur 4 cylindres, évidemment, avec technologie hybride, et on le ressent un peu lorsqu'on accélère à l'audible.
Convenable.
Ça demeure très convenable, surtout quand tu considères que tu as un véhicule à 4 roues motrices qui va rouler l'hiver, là, actuellement, là, j'ai fait une moyenne finale combinée de 7,8 litres au 100.
Pour un si gros véhicule.
Pour un si gros véhicule à 4 roues motrices. Là. Et attention, je me suis tapé une tempête de neige avec le véhicule où là, j'ai décidé d'aller la pousser comme du monde puis de voir ce que le rouage intégral était capable de faire. Il y a tellement de surassistance à la conduite sur ce véhicule-là que vous ne réussirez jamais à faire déraper quoi que ce soit parce que les antipatinages embarquent. Mais ça se fait pas de façon trop saccadée. C'est pas violent, c'est pas désagréable. C'est juste que, oubliez ça de faire déraper.
Tu peux pas la mettre de travers.
Non, comme c'est
on dit.
Ça. Tu casseras pas ça dans un virage.
T'as une Sienna entre les mains.
Exactement. Là où j'ai un bémol, c'est les données système de capteurs, tout ce qui s'appelle capteurs de détection, d'obstacles, d'angle mort, d'aide au stationnement, dès que le capteur est obstrué...
Ouais. Ça, c'est le cas pour tous les modèles. Non, en hiver, là, dès qu'il y a un flocon ou un bloc de glace, tout ça tombe non fonctionnel.
Mais on sait que ça ne fonctionne pas et ça va. Mais là, c'est parce que la Sienna n'arrête pas de te le dire.
Ah, et ça, c'est un peu plus facile.
Fait que là, tu perds l'information que tu as dans ta planche de bord, tu as beau vouloir resetter puis dire « OK, j'ai compris », 3 secondes après, on te ramène l'information. Donc, tu perds tout ce que tu as dans ton instrumentation parce qu'on dit que tu as un capteur qui est obstrué. Donc, essentiellement, 4 mois par année, vous allez rouler avec des capteurs obstrués et conséquemment avec un message fatigant dans la planche de bord parce que Toyota n'a pas été assez brillant pour faire « Ah, en passant, vous avez un capteur d'obstrué », là, tu fais OK et le message disparaît. C'est pas... Toutes les autres marques de véhicules, c'est comme ça, mais Toyota, non, on te l'étampe dans le front jusqu'à temps que tu aies nettoyé le capteur à l'extérieur.
La sécurité, c'est notre priorité.
Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai trouvé ça un peu fatigant, mais honnêtement, technologiquement parlant, c'est la fourgonnette à avoir parce que c'est pas contraignant. Bon, évidemment, qu'il y a une Chrysler Pacifica hybride rechargeable, il y a un avantage de pouvoir rouler en mode 100% électrique, là, oui, mais ça vient avec des contraintes de poids. Tu te trimballes toujours un moteur V6 qui va consommer plus une fois
et
l'étape.
Et on ne peut pas avoir les 4 roues motrices.
Et on ne peut pas avoir les 4 roues motrices.
Si on opte pour l'hybride.
Ni la fiabilité d'une Toyota Sienna.
Oui.
Et ça aussi, il faut quand même le considérer. Alors, c'est un produit que j'ai bien apprécié et ça me ramène encore... Ça me convainc encore qu'une fourgonnette a sa place sur le marché. Il y a encore un marché pour ça. Je suis persuadé qu'il y a des gens... honnêtement, là, moi, entre conduire ça puis conduire un Highlander... Là,
Ah, c'est pas plus excitant à Highlander, mais c'est 100 fois plus pratique pour
une petite
famille.
C'est 100 fois plus pratique.
Oui.
C'est extraordinaire comme véhicule familial. Ça consomme rien. Honnêtement, c'est un véhicule que vous devriez cibler avant bien d'autres choses si vous avez une famille, surtout avec les quatre roues motrices comme ça. Non, vous n'allez pas grimper l'Everest, là, parce que c'est pas un véhicule...
Et vous impressionnerez pas votre voisin non plus.
Non plus. Mais qu'est-ce que ça fait le travail?